des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai des amis au Sénégal.
Tu connais des gloumoy.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici
tour du monde.
Là-bas,
voir d'autres êtres humains.
Ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Hommage aux victimes de l'ouragan Irma. Émission spéciale, émission décalée. En ce dimanche 10 septembre 2017, bienvenue à Toronto. Et l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, merci d'être là au microphone Eric Adair, aujourd'hui assisté de la toute nouvelle bénévole et collaboratrice Jennifer Lee. Vous nous écoutez sur www.popourichaud.com et en direct sur www.cut.fm, www.cut.fm. Je suis très heureux d'être enfin de retour chez nous, chez moi. Et pour la 31e année consécutive, notre émission Potpourri Show sur CUT 89,5 FM fête la francophonie dans tous ses états et sa diversité. Et tout au long de l'année, l'équipe se propose de réunir les enseignants, chercheurs, professeurs, doctorants, collaborateurs, collaboratrices, politiciens, politiciennes, agents, agentes communautaires, écrivains, artistes, cinéastes, des correspondants de la région et à l'étranger. Et nous espérons bien sûr recevoir des nouveaux partenaires. Pour tout savoir ou pour être justement de la fête et de la danse, potpourri@cut.fm. Et aujourd'hui, l'ouragan Irma, eh ben, ça continue sa course en Floride, Miami. Vous avez vu les désastres ce matin et c'est pas fini. Saint-Martin et Saint-Barthélemy, des îles que nous connaissons bien, où nous avons beaucoup d'amis, de partenaires, même de la famille, sont complètement dévastés. Un vrai cauchemar pour les habitants et les familles à Saint-Martin, Saint-Barthélemy surtout. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Comment acheminer les secours? Nous avons reçu plusieurs messages de détresse, des témoignages des victimes. Sophie, Valériane, Xavier, Yvon, les correspondants d'Europe 1, RFI, Guadeloupe Première, tous ces gens font un travail extraordinaire. L'Université franco-ontarienne, y croyez-vous, un sujet qui fait pas l'unanimité chez les francophones. Et oui, est-ce une occasion d'intégration pour les nouveaux arrivants ou étudiants francophones? Pour tout savoir, ne ratez pas cet entretien exclusif avec Faiza Abdallaoui, première fois d'ailleurs je pense, présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, vers 11h30. Et oui, le plus grand festival de films international à Toronto, c'est ce qu'on dit, édition 2017. 255 longs métrages, 84 courts métrages venus du monde entier, une quarantaine d'œuvres en français ou comportant des passages dans la langue de Molière. Et environ 80 films provenant de l'industrie locale canadienne, c'est bien. Et Lady Gaga, qui fait son show. Jennifer, Ron, DJ Ron, avez-vous vu Lady Gaga? J'ai hâte de la voir. Elle se barre. She quits. Ah oui, elle dit bye bye. Too tired. I am sick. Lady Gaga s'en va, madame, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec elle? On saura tout ça peut-être avec Marceline, collaboratrice et partenaire de notre émission. Elle est fondatrice de Ciné Franco. Elle sera des nôtres en direct de TIFF 2017. Et si vous participez à l'émission aujourd'hui, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Vous gagnez des billets pour le reste du festival. Et nous allons avoir en première mondiale le long métrage Gutlen, de réalisateur Govinda Van Mail. Il est actuellement à Toronto, je viens de lui parler dans sa chambre d'hôtel. Coproduction, les films Fauve, c'est l'histoire d'un Allemand qui s'enfuit au Luxembourg, enfin cambriolage. J'ai visionné le film de la Californie, très 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 bien, alors bravo, et il sera des nôtres aujourd'hui. Luxembourg, connaissez-vous Luxembourg? Où est le Luxembourg? Est-ce qu'on parle français au Luxembourg? Et merci à Anne-Lise Kantz qui nous écoute peut-être en direct de Paris. Elle est l'attachée de presse de Ciné Sud Productions Paris France. C'est elle qui a coordonné cet entretien. Merci. Littérature, la rentrée d'automne des éditions Prise de Parole pour une quatrième année, sa moisson d'œuvres, d'essais et d'études qui saura vous faire voyager dans les paysages littéraires et culturels de la Louisiane, de l'Acadie, de l'Ontario. Et comment ne pas inviter le co-directeur général et directeur de la commercialisation d'édition Prise de Parole, Stéphane Cormier, que je viens de réveiller de son sommeil, de ses rêves. Immigration et diversité, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Alors ça, c'est intéressant, on fera une émission spéciale là-dessus. AFO et la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada ont lancé, tenez-vous bien madame, monsieur, je ne sais pas s'il faut prendre au sérieux, un message conjoint de bienvenue aux demandeurs d'asile, surtout les Haïtiens en provenance des États-Unis. Pourquoi faire? Est-ce qu'on va leur donner du travail? Y croyez-vous? Vous les Haïtiens là qui m'écoutez, quelle est votre réaction? Y croyez-vous que les Franco-Ontariens vont vraiment vous accueillir et vous aider à intégrer la société canadienne francophone ici, à Toronto, en Ontario? Et l'inaction de l'Ontario est dénoncée par les demandeurs d'asile haïtiens. Nous remercions beaucoup les différentes sources, entre autres hashtag Canada, hashtag Francophonie, hashtag Ontario et bien sûr TFO. Les journalistes de cette institution font un travail extraordinaire. Haïti toujours, quelqu'un m'a envoyé, j'espère que c'est pas un message farfelu, hein. La Corée du Nord pense-t-elle à lancer une attaque nucléaire sur Haïti avec cette menace de lourdes conséquences? Les Haïtiens ont été prévenus de cesser de se moquer du leader nord-coréen Kim Jong-un sur Facebook ou faire face à de lourdes conséquences. Alors les Haïtiens, ne rigolez pas avec Kim Jong-un. Il faut le prendre au sérieux parce qu'il détient le nucléaire. Côté santé, Nathalie Codsi, jeune médecin de famille originaire de Montréal, réside maintenant à Toronto, et dit que la francophonie a été plongée dans l'univers des hôpitaux anglophones torontois où elle a été confrontée aux besoins de la clientèle franco-ontarienne. Elle a observé que bien souvent, les soins qu'ils reçoivent dans leur langue dépendent de la chance. Eh oui! Ne tombez pas malade, madame, monsieur, si vous n'avez pas de la chance. Eh oui, alors je vais lire rapidement cette lettre que nous avons reçue ce matin, communiqué du Secours populaire français qui lance un appel aux dons qui sont indispensables pour les victimes de cette catastrophe dans les Antilles, surtout les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Le Secours populaire français appelle à la solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu suite au passage des ouragans. Ces ouragans meurtriers d'une rare intensité viennent de dévaster, comme vous le savez, les images sont saisissantes. Les Antilles, les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont ravagées. La République dominicaine, Haïti, Cuba, la Floride et d'autres pays maintenant sont menacés. Alors, il s'agit tout d'abord de répondre aux besoins de première nécessité, distribution alimentaire, produits d'hygiène, de bâches en plastique, purification de l'eau, sachant que ceux-ci vont perdurer pendant des mois. Il faudra ensuite accompagner les populations dans la durée, dans les domaines de la santé, de l'éducation. Le Secours populaire appelle aux dons par SMS, envoyez donc 5 ou donc 10 au 92222 pour verser 5, 10 dollars, 15, 20 dollars, 100 dollars, comme vous le voulez. Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours populaire français dans tous les départements ou au 911 rue Froissart, boîte postale 3303 75 123 Paris CEDEX 03. Et vous pouvez aller sur le site www.secourspopulaire.fr. Et encore, merci à tous ceux et celles qui nous envoyaient des messages sur les réseaux sociaux. En effet, nous avons des amis de la parenté dans ces îles. Ce sont des îles qu'on visite chaque année. Donc, on est très attristés. On n'a toujours pas de nouvelles de beaucoup de nos amis. Alors, on va y continuer aujourd'hui et demain. Potpourri chaud, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. L'état de catastrophe naturelle déclaré à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévasté par l'ouragan Irma mercredi dernier. L'état de catastrophe naturelle déclaré à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévasté par Irma, l'ouragan de catégorie 5, poursuit sa trajectoire destructrice dans les Caraïbes en direction de la Floride. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, au lever du jour, il y avait des airs d'apocalypse à Saint-Martin mercredi. La fureur des vents a tout emporté. Irma laisse derrière lui un cimetière de bois fracassé, de tôles froissées, de bateaux encastrés. Partout, des voitures ont tourbillonné dans les airs pour retomber des dizaines de mètres plus loin. Les toits se sont enlevés, même les bâtiments les plus solides comme la caserne des pompiers, la gendarmerie, la préfecture ont été rasés. L'économie de l'île est par terre. L'île est comme coupée du monde. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de télécommunication. Les habitants découvrent Sonné et Agar, une île qui a changé de visage. Vue du ciel, la partie néerlandaise de Saint-Martin montre un chaos indescriptible. Des centaines d'entreprises sont touchées. Toute l'économie de l'île est par terre. À Saint-Martin, il y aura désormais dans l'histoire de l'île un avant et un après Irma. Et en dernière heure, nous apprenons que le puissant ouragan a fait au moins 12 victimes à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 10 dans les îles Vierges britanniques et américaines, 2 à Porto Rico et 1 à Barbuda. Nous écoutons en ce moment un appel de détresse de Sophie, capté par une de nos radios partenaires d'Europe 1
sécurité au terrain. Sophie est là avec nous en ligne grâce au moyen satellite de Xavier Yvon qui se trouve sur l'île de Saint-Martin. Bonjour Sophie, je ne sais rien de vous. Je sais que vous êtes habitante de Saint-Martin depuis longtemps, depuis toujours peut-être.
Eh bien, ça fait à peu près 24-25 ans que j'habite à Saint-Martin.
L'idée qu'on se fait évidemment de...
Je m'appelle Sophie Garinos, oui.
L'idée qu'on se fait de votre île, madame, c'est l'idée d'un paradis. C'est d'ailleurs probablement pour ça que vous êtes là-bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ces dernières heures?
Eh bien, je me suis promis de recroire en Dieu et de retourner à l'église, c'est pour vous dire. Et je le pense vraiment du plus profond de mon cœur. Parce que ces dernières heures, c'était... Saint-Martin est un paradis. Et d'un coup, c'est devenu l'enfer. On s'était bien préparé, on n'imaginait pas... Louis avait déjà été un cyclone catastrophique, mais on ne pouvait pas imaginer que la nature puisse déclencher quelque chose de pire. Et en fait, on s'est préparé avec sérieux. Moi, j'étais avec mon ami et son fils. On y avait commencé la semaine dernière parce qu'on a bien senti. Beaucoup de gens ont fait pareil ici. Je crois que c'est pour ça que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. On a fait les courses, l'eau, tout. Et puis... mardi, on est allé faire des bisous à tous les nôtres, puis on s'est enfermé à la maison quand c'est devenu l'alerte violette. Et en fait, ça a été assez calme, il y avait du vent, mais jusqu'à 3h du matin, c'est vrai que ça a été assez supportable malgré le bruit. Et puis ça a commencé vers 5h, 4h30, 5h, là c'est devenu assez dur. En fait, on ne sait même pas d'où ça vient, tous ces bruits, on ne sait plus ce que c'est, mais c'est... Pardon. C'est... démoniaque, on sait pas, on a l'impression qu'on serait des enfants, on dirait qu'il y a des monstres dehors. Et donc on a lutté, on a tenu les volets roulants, la fenêtre, l'eau passait partout, mes voisins d'en dessous, ils avaient 1m20, ils ont nagé pendant des heures. J'ai plusieurs petits voisins qui sont montés chez moi parce qu'ils ont nagé avec leurs animaux pendant des heures le temps que ça se calme. Et en fait, quand il y a eu l'œil qui est passé sur nous, il y a eu un petit moment de répit et là tout le monde a essayé de se réfugier un peu chez moi, un peu partout, un peu chez les voisins. Mes voisins d'au-dessus, ils n'ont plus de toit. Leur fils avait pris aussi un impact, le pauvre, il est blessé. Il y a beaucoup de gens blessés aussi. Et puis il y a beaucoup de morts aussi.
Votre maison, madame, a tenu le coup, néanmoins?
Eh bien, la chance que j'ai eue, ça a tenu le coup jusqu'à après l'œil en fait. Et quand les grands vents ont repris mes volets, parce que moi j'avais des volets roulants, et il faut savoir que normalement au Flamboyant on est ablis anticyclonique, donc on était tous un petit peu quand même confiants, à part ceux qui étaient sous les toits. Et comme je vous dis, c'est pour ça que je vais recroire en Dieu, parce que mon volet il a lâché un peu à la dernière minute, quelque part un peu à une heure avant la fin, mes deux volets. On était tous là à les tenir, on était tous sur des chaises, collés le dos contre les volets. Quand il a lâché, on s'est tous réfugiés à l'intérieur, on a fermé la baie vitrée. Et heureusement, la baie vitrée, elle a tenu jusqu'au bout. Elle a tenu jusqu'au bout.
Je suppose, madame, que le risque du cyclone fait partie de votre vie. C'est régulier dans les Antilles. Oui. À ce point-là, vous n'aviez jamais envisagé?
Non, c'était pas possible. C'était pas possible parce que, en plus, nous, on est entre le lagon et la mer. Alors, on se disait bien qu'on risquait l'eau, mais il y avait des murs partout. On a des murs d'enceinte partout. On n'aurait jamais imaginé que l'eau allait traverser à cette hauteur. Mais il y avait 1m20, 1m50 d'eau dans tout Bénétlé. Vous savez pas à quel point les gens, ils ont lutté à nager dans leurs appartements. Mon petit voisin, tout était fermé. Il n'arrivait même pas à s'en sortir. Il a cassé lui-même son volet pour s'échapper parce qu'il allait mourir noyé. Et voilà, tout le monde a nagé pendant des heures en attendant que... On sait que quand l'œil du cyclone arrive, on sait tous, parce que voilà, c'est pas le premier. Comme ça sera, je crois, le seul.
Alors vous nous dites que vous êtes converti pendant cette nuit, et on entend ça. Est-ce que quand le jour s'est levé, que vous avez constaté les dégâts, vous vous êtes dit je reste
quand
ou je rentre en métropole?
Je me suis dit, avec ma copine, on s'est regardé d'abord quand on a ouvert la fenêtre... Et là, c'est le désastre. Vous dites, putain, c'est lunaire, c'est pas possible. Ils nous ont jeté une bombe atomique dessus. C'est pas un cyclone qui a fait ça. Et on n'avait pas encore tout vu. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, on va régler nos affaires, je crois, cette fois. Parce que, on est propriétaires, on a tout. C'est vrai que c'est toute une vie. Après, tant qu'on est en vie, on s'est regardé, on s'est dit, tu sais quoi, on s'en est sorti. Allez, le matériel, on s'en fout. Parce que c'est vrai que c'est ça le plus important. Mais, perdre toute sa vie. On a le risque tout le temps ici, chaque année déjà. On subit des cyclones réguliers, plus ou moins intenses, mais là, On garde de la force, vous savez, parce que de toute façon, on est tous sur les nerfs, on n'a pas dormi. Et puis, il y a l'instinct de survie là, qui est là et qui nous tient et qui on essaie de s'aider les uns les autres. On casse des portes d'appartements fermées, on met tout le monde à l'abri, on s'entraide. Et on va être crevé dans pas longtemps. En plus, on a peur de ne pas avoir d'eau, de nourriture. On a peur du braquage, parce que malheureusement, dans ces moments-là, ça, on a déjà vécu avant.
Il y a des braqueurs.
Cette nuit, ça a commencé déjà, ça braque partout, ça agresse. Si ça manque d'eau, il faut absolument que l'armée vienne vite, qu'elle amène de l'eau et de la bouffe, parce que sinon, ça va commencer, ça. Et en fait, moi, c'était surtout l'après que je craignais, parce que le pendant, je me disais, allez, on va s'en sortir. Mais l'après, vous savez, l'humain, il est aussi pourri qu'il est bon. Et après, à coup de machette, à coup de tout, ils sont prêts à vous flinguer pour de la bouffe, pour de l'eau. Alors, il faut que l'armée vienne vite, il faut que les flics soient là et qu'ils nous sécurisent, parce que c'est ça la plus grosse crainte.
Maintenant.
Et puis, dans ces moments-là, ouais, ah oui, maintenant, notre peur à tous, c'est de comment on va se sécuriser, que personne vient, essaie d'ouvrir, essaie de nous prendre le peu qu'on a, parce qu'il faut survivre. Hein.
Merci pour votre témoignage. Merci pour votre témoignage, Sophie. Je vous embrasse.
Hommage aux victimes de l'ouragan Irma qui a frappé les Antilles, plus particulièrement Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les photos sur les réseaux sociaux montrent des rues inondées ou des rues très endommagées, des bateaux transformés en petits bois dans un port, des arbres déracinés par les rafales de vent, des toitures envolées et parfois retrouvées sur la route, des voitures immergées sous des mètres d'eau ou renversées, des paysages saint-martinois bien éloignés de l'image paradisiaque que connaissent les touristes. Plusieurs des endroits que nous aimons visiter sont partis. Saint-Martin, Saint-Barthélemy ne seront plus jamais pareils. Après l'ouragan, les pillages. Des habitants de Saint-Martin ont été filmés en train de voler, en plein jour, en toute impunité. Plusieurs commerces ont ainsi été dévalisés depuis le passage d'Irma. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a elle-même affirmé jeudi avoir observé les pillages lors de sa visite de reconnaissance sur l'île. Et je vous invite, madame, monsieur, à être nombreux à appeler le Secours populaire français afin de pouvoir aider en toute urgence les victimes de ces îles. www.secourspopulaire.fr. Appel aux dons. Et cette fois-ci, voici un message de détresse lancé par un habitant de Saint-Martin.
Ici, la situation commence à vraiment être dangereuse. Les gendarmes sécurisent les lieux stratégiques, genre le Super U, les monopes, etc. Par contre, des braquages, des pillages, tout partout, des scooters qui tournent toute la nuit, des gens qui se font braquer partout. Et donc, voilà, faites très très attention, on a besoin d'aide, on a vraiment besoin de beaucoup de personnes, on est en train de se barricader pour José maintenant. Malheureusement, il faut autant faire des abris pour le cyclone que des bunkers pour les personnes. Donc, ça devient très, très, très lourd. S'il vous plaît, amenez le plus de monde, le plus de d'armée ou de quoi que ce soit pour sécuriser au moins. Et voilà, les pompiers, les aides pour les médecins, les trucs, les médicaments. Tout se fait piller, la pharmacie s'est fait piller, toutes les pharmacies, pratiquement, je ne sais pas si celle de Cul-de-sac est encore debout, mais toutes les pharmacies, en tout cas Concordia, Well Center, Grand Cas s'est fait piller pour rien, parce que les gens prennent n'importe quoi. Pareil, ils disent qu'il n'y a que deux personnes interpellées pour du vol de Hi-Fi, il y avait 200 personnes à JTM et à Bellevue qui volaient de partout, ils volaient des vêtements, ils volaient des... Putain, ils ont plus de maison, ils prennent des machines à laver, tu te demandes pourquoi. Voilà, donc ramenez-nous du monde, s'il vous plaît. Enfin, faites attention, parce qu'il y a José qui arrive, mais juste après, il faut absolument du monde. Qu'on puisse au moins sécuriser les zones de population, sécuriser les gens, parce que ça part vraiment en zizanie, ça part vraiment en couille.
« Et encore une fois, pour envoyer vos commentaires, vos messages, vos condoléances, popourri@cut.fm. Je tenterai de lire vos commentaires tout au long de l'émission. Et merci encore une fois à tous ceux et celles qui ont déjà envoyé des messages depuis mercredi sur nos réseaux sociaux. Merci, merci mille fois d'être là. Et oui, avant de passer à l'immigration, la francophonie, la nouvelle université de Toronto, le festival international de films, le plus grand festival international de films, Toronto, TIFF 2017 avec Marceline, il y a un article qui a attiré mon attention parce que ça touche à la santé, ça touche à la francophonie. Et je remercie beaucoup Étienne Fortin-Gauthier et tous les journalistes d'ailleurs de TFO qui font un travail de titan extraordinaire, beaucoup de recherches. Et il faut donc vous abonner, hashtag ONFR ou hashtag TFO. Alors, cet article concerne la santé, c'est l'expérience d'une jeune médecin, Nathalie Codsi, médecin de famille originaire de Montréal, résidente à Toronto depuis 2 ans, et elle dit que la francophonie a été plongée dans l'univers des hôpitaux anglophones torontois où elle a été confrontée aux besoins de la clientèle franco-ontarienne. Elle a observé que bien souvent les soins qu'ils reçoivent, que les patients francophones reçoivent dans leur langue dépendent, tenez-vous bien madame, monsieur, de la chance. Être malade, trouver des soins appropriés en tant que francophone à Toronto, il faut avoir de la chance. Incroyable. En 2017. Et à la question posée, comme médecin en première ligne à Toronto, à quelle fréquence accueillez-vous des francophones? Est-ce assez rare? Elle répond: en fait, c'est plutôt commun. Mes collègues commencent à savoir que je parle français. Et il me réfère des patients francophones. Donc, dans ma pratique, j'ai plusieurs patients francophones. Ils composent environ 10% de ma clientèle. À une autre question, êtes-vous identifié comme étant capable d'offrir des services en français dans vos hôpitaux? Elle répond, pas du tout. On doit se fier aux bouches à oreille. Bien souvent, ce sont les secrétaires qui me les amènent, car ils savent que je viens de Montréal. Et il faudrait une manière plus systématique d'identifier les professionnels de la santé francophone. C'est ce qu'elle dit, hein. Ça faciliterait la vie des francophones qui doivent en ce moment compter sur la chance dans plusieurs régions. Pour être soigné en français, il faut de la chance actuellement. À une autre question, avez-vous quelques exemples de patients francophones qui ont pu profiter de votre aide? Elle répond, oh, je me rappelle d'un cas en particulier où une dame était en plein délire. Déjà d'être à l'urgence, c'est stressant, elle était désorientée, agressive, et d'avoir personne qui parle sa langue. Ça empirait la situation. Par hasard, je passais par là et je suis allé la calmer. Le simple fait d'entendre sa langue a changé complètement son attitude. Elle s'est sentie écoutée et comprise. On sous-estime ce facteur. Comme on voit bien, madame, monsieur, chers auditeurs, chers partenaires de toujours, je ne veux pas créer de polémique, mais c'est bien une réalité. Je le dis depuis belle lurette. Il faut réinventer nos stratégies d'approche auprès des francophones. La santé est une question essentielle pour les francophones. Il faut agir, agir vite, agir maintenant. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5 FM, bringing you the sound of your city for 30 years.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, encore une fois, mesdames, messieurs, voilà une petite musique des Antilles, justement, pour rendre hommage à tous ces victimes. Eh oui, beaucoup de nos amis sont coincés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et d'autres îles. Nous avons reçu beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Certains crient scandale, honte pour le gouvernement français qui aurait dû anticiper et prévoir des avions en nombre pour évacuer un maximum de gens et surtout les enfants. Ce gouvernement a minimisé les conséquences concernant la sécurité sur le côté néerlandais de l'île. 250 prisonniers se sont évadés en espérant qu'ils ne se sont pas... que ce ne sont pas des assassins, nous dit-on. Merci beaucoup, Victor, pour ce message. Christian, merci pour votre message. Et tant d'autres encore que je vais lire tout au long de l'émission. Allez, envoyez-nous vos messages, madame, monsieur. Potpourri show, potpourri, @cut.fm. Merci. Potpourri Show, 30 ans déjà, sur
RFI, toute la diversité du monde.
D'abord, sur le plan financier, on estime que l'Université franco-ontarienne aurait un budget de 40 millions par année. Et le coût pour mettre en place cette université serait près de 90 millions de dollars sur 7 ans. Et on nous dit aussi que les premières cohortes d'étudiants seraient modestes, soit 300 étudiants pour la première année. Donc, si on garde les chiffres en tête, même sans les coûts d'ouverture, là, chaque étudiant la première année va coûter 133 000 $. 130 000 piastres par étudiant. Pour vous donner une idée comment ce chiffre se compare à toutes les autres universités en Ontario, à l'Université d'Ottawa, si on divise leur budget annuel, donc toutes leurs dépenses, par le montant d'étudiants, ça donne environ 19 000 $. 130 000 $, 19 000 $. Mais inquiétez-vous pas, le fédéral va venir aider. Ben, du moins, c'est ce qu'on espère. Parce que le fédéral est toujours là pour aider 500 000 habitants d'un pays de 33 millions. Je suis le seul qui trouve ça un peu ridicule. Comme, hostie, je suis tanné. Ensuite, parlons-en de ces 300 étudiants-là. Ils vont venir d'où exactement? Ben, au départ, les étudiants vont soit venir de d'autres universités ou de l'étranger. Bon, là, on va expliquer de quoi. Étranger peut vouloir dire deux choses. Soit...
Et oui, l'université franco-ontarienne, l'appui timide des militants du rapport de Madame Diane Adam. En effet, les militants francophones ont apporté plusieurs réserves au rapport de Diane Adam publié la semaine dernière. Si les choses sont très intéressantes, des choses très intéressantes sont soulignées dans la publication de la présidente du conseil de planification, d'autres font quelque peu sourciller, en particulier l'absence de la gouvernance. Et par et pour les francophones, on sait que dans le passé, il y a un certain collège, vous vous souvenez, dans les années 90, pour ne pas dire le nom, Collège des Grands Lacs, qui a fait faillite, madame, monsieur. Et beaucoup de plaintes, beaucoup de discrimination envers les immigrants, les étudiants. Enfin, il y avait une crise énorme, énorme à l'époque. Université franco-ontarienne, est-ce un atout pour attirer les immigrants francophones? Quelle question. Dans un instant, mon invité, la présidente du MOFIF, Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones de Toronto, Faiza Abdallaoui, présidente de ce mouvement, sera des nôtres. Ne partez pas. Alors le MOFIF a pour mission de travailler à la mise en place des conditions favorables pour améliorer la situation des filles et des femmes immigrantes francophones et favoriser leur intégration ainsi que leur participation active dans toutes les sphères de la société. Bonjour Madame la Présidente Faiza Abdallaoui, comment allez-vous ?
Très très bien, bonjour, merci de m'avoir.
Oui, alors... quelle est votre opinion? Vous avez entendu ce jeune franco-ontarien. Ça, c'est un jeune étudiant, hein, franco-ontarien.
Oui, oui, absolument. J'avais vu la vidéo sur Facebook. Effectivement, ça m'avait beaucoup fait sourire. Oui. Et puis, interpellé. J'ai fait beaucoup de lectures depuis la semaine dernière. Oui. C'est sûr que c'est un sujet qui va nous faire parler pendant les prochaines années. Mais je voudrais déjà saluer la persévérance des organismes étudiants et du conseil, le soutien des ministères pour faire avancer ce dossier. C'est déjà un premier pas. Il y a des choses à construire, il y a de la réflexion à mener tous ensemble, mais c'est déjà quand même une bonne chose de pouvoir avancer du plan à la planification, on va dire.
Alors, il y a un point très très important. Je connais bien Madame Diane Adam. Elle est une femme formidable, très engagée dans la francophonie. Elle a fait un travail extraordinaire au niveau des langues officielles au Canada. Mais le problème, et je pense que c'est le clou de la question, c'est la gouvernance. Et vous le savez, en tant que présidente d'un organisme à but non lucratif, que les bailleurs de fonds aujourd'hui et le public en général regardent de plus en plus de très près la façon dont on gouverne les organismes.
Absolument. Et ça fait sens de toute façon parce qu'on travaille tous avec des deniers publics, on va dire.
Voilà.
Mais je pense que cette gouvernance par et pour les francophones, pour cette université, comme ça aurait dû ou ça pourrait être le cas pour les autres corps enseignants, les autres organismes en charge de l'éducation pour les francophones, effectivement, ça va être un point important. Ça va être un point très important parce que vous me dites, est-ce que c'est la question de cette entrevue, c'est est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est quelque chose d'important pour les immigrants francophones? Bien, quand on parle d'immigrants francophones, on parle de plusieurs types d'immigrants francophones. Un petit peu comme le disait ce jeune homme dans cette vidéo, c'est vrai qu'on va avoir des étudiants qui vont venir de l'international. Mais ils sont clés, ces étudiants. Certains d'entre eux vont vouloir effectivement rester, peut-être au Canada. Et puis les autres, et je pense que c'est important de le dire, ceux qui vont partir quand même en ayant créé des liens. Et je pense que ça serait important même pour la communauté immigrante présente ici. Je connais énormément de femmes et d'hommes d'ailleurs qui veulent lancer des entreprises en lien avec leur pays d'origine, notamment en Afrique francophone. Et ça serait justement un des éléments qui pourrait ressortir de cette université. C'est que finalement, le Canada et l'Ontario pourraient commencer à créer des liens économiques, sociaux, culturels avec un continent qui a été complètement laissé de côté du côté économique.
Oui.
Après, on parle bien sûr des adultes qui immigrent ici et puis des jeunes adultes qui immigrent ici et qui auraient besoin de repasser par les études pour faire valider leurs acquis. Alors c'est déjà le cas avec le Collège Boréal, ça pourrait prendre une autre dimension avec cette université. Et on a également bien sûr nos jeunes des écoles secondaires qu'il faudrait pouvoir garder dans ce rayonnement en fait francophone. Et là aussi je pense que c'est important, mais c'est des besoins spécifiques, c'est des réalités très diverses. Et cette gouvernance et puis je pense l'implication aussi du plus d'acteurs possibles communautaires, institutionnels effectivement, pour avoir ces différents angles pris en compte. Ça va être très important pour éviter les ratages et pour éviter de se retrouver effectivement avec une université qui ne donne pas et qui n'offre pas le plus possible et le mieux possible aux immigrants.
Très bien dit. D'ailleurs, il y a Sandra Baransira, qui est vice-présidente de l'Alliance des Burundais du Canada, qui aborde un peu dans le même sens et trouve qu'au niveau des affaires, au niveau démographique ou de croissance économique, l'Afrique est un acteur incontournable au niveau des échanges.
Absolument. Et je trouve d'ailleurs que la question du développement économique de nos communautés immigrantes ici et puis de leurs familles aussi dans les pays d'origine sont trop souvent laissées de côté dans nos discussions, alors que c'est vraiment clé. Si on veut une communauté francophone forte en Ontario, c'est vrai qu'il nous faut du nombre. On a cet objectif des 5%. Mais il nous faut aussi une économie, il nous faut aussi des emplois, il nous faut aussi des entrepreneurs, il nous faut aussi ce réseau qui se soutient, qui s'entraide vraiment dans différents corps professionnels. Et ça serait cette opportunité-là, cette université, vraiment, si on a 3 ans devant nous pour la lancer, à nous, effectivement, les immigrants, de commencer à travailler là-dessus et de voir comment est-ce qu'on peut transformer cette université en un tremplin économique pour nous renforcer financièrement. Et effectivement, c'est comme ça. Quand on a un poids financier, on a aussi après un poids au niveau des votes, au niveau de tout ça. Donc, ça sera important de ne pas rater le coche et puis de prendre cette opportunité. Moi, je le vois vraiment. C'est vrai que nous aussi, on travaille beaucoup sur le développement économique. Je vois vraiment cette université comme une opportunité pour nos communautés.
Oui. Je suis en compagnie, madame, monsieur, avec madame Faiza Abdallaoui, présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, MOFIF. Il y a une étudiante, Émilie Tou, étudiante au programme de français intensif à l'Institut collégial de Lawrence Park, qui dit « J'ai appris qu'il y a un manque de services en soins de santé et de services juridiques en français, en Ontario et surtout à Toronto. Je pense que la raison de cette disparité est qu'il n'y a pas assez d'étudiants dans ces domaines en français. »
Oui. Alors ça, c'est aussi j'allais dire un drame, mais c'est vrai que je vais garder ce mot, c'est qu'on a parmi nos immigrants, femmes et hommes encore une fois, mais femmes, j'en connais beaucoup, des médecins, des infirmiers, des infirmières qui arrivent. Donc l'expérience est là du pays, et puis c'est vrai qu'on est sur un processus d'équivalence de diplôme qui est juste ubuesque, pour ne pas dire autre chose. Et c'est vrai que ça pourrait être une opportunité, ce qui nous amène à la question des cours qui pourraient être offerts dans cette université. Est-ce qu'on va penser à effectivement combler des besoins en français? Et ça sera très important, comme le dit cette étudiante en santé. Et en plus, le MOFIF travaille avec Reflet Salvéo actuellement sur une étude justement sur les services en français pour les habitants de Regent Park et Moss Park.
D'ailleurs, j'aimerais bien vous inviter pour très prochainement pour parler de moi. Oui, oui. Parce que ça m'intéresse. Plaisir. Ça m'intéresse.
Il y a beaucoup de sujets, effectivement, avec vous. Oui. On serait ravis de pouvoir en parler avec vous et Tarsis et d'autres. Mais quel sera l'objectif de cette université? Est-ce que c'est combler des besoins en français? Ça sera essentiel. Est-ce que c'est aussi être pertinent au niveau du marché du travail qui est en révolution? Et là, c'est vrai qu'on a aussi notre part à faire pour sensibiliser les immigrants en disant le monde du travail change, donc soyons à l'écoute, soyons presque précurseurs sur certaines choses. Ça sera important. Et je sais qu'en lisant le rapport, il y avait cette espèce d'approche innovante d'éducation. Voyons aussi qu'elle soit pertinente, parce qu'on ne voudrait pas avoir des francophones qui s'engagent et ils vont être très courageux, ils vont être je pense un petit peu aux premières écoles, d'ailleurs secondaires francophones dans les années 70, si je ne me trompe. Les étudiants qui s'engageaient là-dedans, ils étaient vraiment très courageux et très engagés. Donc, ça sera important qu'effectivement l'université, certes, elle éduque en français, mais qu'elle éduque en ayant les emplois dans la ligne de mire. Donc,
alors, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de réactions. Ouais. Il y a malheureusement une autre invitée qui nous attend au Festival international de films de Toronto. Que voulez-vous? Il faut en parler. Alors, je vous remercie infiniment, mais aussi on va parler de la prochaine fois de l'équité au niveau du travail, au niveau de l'éducation. C'est bien d'avoir accès à l'éducation, mais est-ce que finalement, ces immigrants vont trouver du travail, vont avoir leur place au soleil. Parce que, comme vous le savez, au Québec, cet automne, ils vont commencer à faire une consultation majeure sur la discrimination dans toutes les sphères. Alors, donc, Donc, si on a besoin des francophones pour renflouer nos salles de classe, pour renflouer la démographie francophone en Ontario, il faut aussi voir notre approche, notre attitude, la gouvernance et s'assurer qu'il y ait de l'équité en matière d'emploi. N'est-ce pas?
Complètement.
Allez, je vous remercie infiniment. D'ailleurs, je demande aux gens d'aller sur votre site, très bien fait d'ailleurs, www.mofif.ca. Et là, vous allez avoir tous les renseignements, madame, monsieur, madame Faiza Abdoulaoui, première fois à l'émission, mais quelle bonne, belle surprise.
Merci et grosse santé aux familles et aux victimes, aux Antilles.
Je vous remercie et bien le bonjour à toute la famille et vous, votre équipe. Et on se parle très prochainement. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Tu es le jour qui se lève sur mes rêves crispés. Un matin qui s'ouvre et recharge mon souffle. Une lueur qui pointe, révèle mon regard. Un soleil qui pleut, dissipe mes brumes. Holy water, early morning. Holy water, early morning. Je voudrais percer ton secret, mais tu demeures un mystère. N'empêche, pas besoin de comprendre, tu m'habites et m'inspires. Quand ton parfum délicat m'enlace, je me laisse choir dans ta douce quiétude. Holy water, early morning. Holy water. When I'm exhausted, like a squeezed lemon, you fill my heart with your sweetness. Your charm calms my storms, your grace solves my nerves. I'd like to discover your secret, bedroom and a mystery. Even so, there's no need to understand. You feel and inspire me when your everlasting senses is me.
Et oui, de l'album Frénésie, Wo Lanyo, c'est un artiste francophone, bilingue, africain, d'origine africaine, qui réside à Ottawa, la capitale fédérale du Canada, au cas où vous ne le saviez pas. Il est canadien, madame, monsieur. Merci beaucoup, beaucoup à madame Faiza Abdoulaoui, présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Très bien apprécié, beaucoup de réactions d'ailleurs. Dans un instant, nous allons descendre et peut-être rencontrer Lady Gaga, qui sait. Welcome to le Toronto Film Festival, le plus grand, le plus beau, le plus coloré des festivals du monde. Et dans un instant, nous allons présenter l'actrice principale de ce numéro, madame Marcel Nin. Et si vous êtes sage à la maison, nous aurons un entretien exclusif de Lady Gaga.
Oui,
mon Dieu, qu'il y a du monde partout, partout. Moins de films, me dit-on, mais plus de vedettes. Vous avez jusqu'au 17 septembre pour aller voir un de vos films préférés. Bonjour, Marceline.
Bonjour, Eric.
Comment ça va?
Eh bien,
parce que moi, vous savez, je suis dans les vapes. Hein. Moi, je suis encore dans les décalages horaires. La Californie, voilà. Toronto, c'est pas à la porte. Hein.
Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, vous êtes décalage horaire. Moi, je suis dans les vapes des voyages, assez mouvementés,
oui,
entre l'Afrique, la France, la Belgique, le Maroc, Israël, enfin bref, tout un tour d'horizon,
oui,
qui qui m'a fait découvrir des films formidables.
Allez, parlez-moi rapidement, parce que je sais que vous avez de la grande visite, vous avez un calendrier très, très, très chargé aujourd'hui.
Écoutez, ce matin, je viens de finir un brunch avec Earl Gale, qui est un grand ami de Samuel L. Jackson, que nous connaissons également. Et donc, là, nous allons à midi un événement spécial qui est un hommage à Wim Wenders, mais par la femme de Roger Ebert, du regretté Roger Ebert. C'est Chas Ebert. C'est un déjeuner exclusif. Donc
je n'aurai pas de place, hein, même pas sous la table, sous la chaise. Ok.
Désolée. Et à part ça, bien, mon premier film en fait que j'ai vu, c'était un film du Congo et qui s'appelle Félicité. Et qui a eu des prix partout d'ailleurs. C'est ma première cascade de larmes que j'ai eue pour Ciné Franco, pour le TIFF. Et puis ensuite, l'autre cascade de rire, c'était C'est la vie de Toledano et Nakache. C'est avec Bakri, Jean-Pierre Bakri, qui joue le rôle d'un organisateur d'événements et qui lutte avec toutes sortes de contretemps, très 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 drôle. Une petite animation qui s'appelle en anglais, enfin c'est français mais j'ai retenu le titre en anglais, The Big Bad Fox, très 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 mignon. Peut-être un film que je choisirais pour la jeunesse, pour Ciné Franco, je sais pas trop. Un film qui m'a totalement impressionnée. Ça s'appelle Plongée, de Mélanie Laurent, avec Gilles Lelouch. C'est vraiment une réflexion extraordinaire sur la création. À la fois la création physique d'un enfant, à la fois la création artistique, à la fois cette fusion entre le critique et le créateur, mais vraiment dans un contexte d'un couple et d'amour. C'est un film que je recommande pour vraiment bien réfléchir. J'ai adoré ce film. J'ai été très 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 émue également par un film qui est une coproduction de la France, de la Suisse, d'Israël et de l'Allemagne, qui s'appelle Foxtrot, de Simon Maoz. C'est un film qui a reçu le Grand Prix à Venise. Venise qui a annoncé d'ailleurs son palmarès hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Mais j'ai vu deux films qui figurent dans leur palmarès, donc Foxtrot et l'autre qui s'appelle L'insulte de Douairi, L'insulte qui vient du Liban. Et je crois que le film a été remarqué pour son interprétation masculine, donc premier prix d'interprétation masculine. J'ai été aussi assez frappée par l'argument que finalement tout le monde est victime, à la fois les Libanais, les Palestiniens, dans une société à la fois fragile et enflammée.
Et il y a quelques films canadiens aussi, hein, qui sont à l'affiche, entre autres du Québec.
Pour le moment, je n'ai pas vu de film canadien, mais jusqu'au 17 septembre, comme vous l'avez bien dit, Eric, pour faire ma sélection. Disons que.
Et pour le film d'ouverture, avez-vous eu l'occasion de voir le film d'ouverture?
Non.
Borg et McEnroe?
Non, je n'ai pas eu cette occasion. Je ne sais pas si... Enfin, vous savez, moi, je ne vais pas aux séances publiques. Je vais aux séances de la presse et de l'industrie. On a encore la possibilité d'attraper des films qui sont déjà passés au gala.
On nous dit que dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de notre Confédération canadienne, il y a une réalité virtuelle réalisée pour la première fois par des artistes autochtones. Je trouve ça intéressant.
Oh. Ah oui, c'est formidable.
Et comment vous avez vu Lady Gaga et son documentaire Gaga 5'2"?
Non, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis désolée.
Vous savez, elle a annoncé la suspension de sa carrière. Elle a profité de Toronto d'être au TIFF pour annoncer la suspension de sa carrière. Lady Gaga, madame, monsieur, ne chantera plus dès la mi-décembre. Et nous sommes, nous, chanceux, les Torontois, d'avoir appris la nouvelle en primeur. D'ailleurs, question, est-ce que c'est une femme ou un homme, Lady Gaga?
Je n'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Non, quoique j'aime beaucoup sa voix.
Oui.
Elle a une voix formidable. Mmh. Mais je sais avoir lu dans des potins qu'elle voulait développer sa carrière d'artiste. Mmh. De comédienne.
Oui. Mais dans le documentaire, en deux mots, c'est que ça retrace un peu sa vie privée. Elle est toujours souffrante. Elle est toujours malade sur des médicaments. D'ailleurs, tous ces artistes ont ce problème avec les médicaments. Et finalement, on pense souvent, les acteurs, les actrices, les chanteurs, les artistes sont des super-héros, super-women, supermen. Or, on voit bien qu'ils ont aussi des faiblesses et ils sont très vulnérables, finalement.
Oui, c'est vrai. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais ce sont aussi des menteurs professionnels.
Ah oui.
Donc... mais c'est vrai que c'est une vie très dure.
Je pensais qu'il y avait seulement un menteur professionnel aux États-Unis.
Ah,
alors, qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui? Est-ce que cette semaine...
C'est un super professionnel.
Est-ce que cette semaine, vous avez... Vous savez, nous aurons en première mondiale, d'ailleurs, au TIFF, c'est une première mondiale du long-métrage de Gutland, de Govinda Van Maal. Il est de Luxembourg. Il parle français, il sera à l'émission avant la fin, avant 13h. Et il va nous parler de ce film que j'ai eu l'occasion de voir, vous savez, aujourd'hui par le virtuel, on peut tout voir. Alors, donc, c'est un monsieur très intéressant. Je pourrais... Mais j'ai malheureusement une relation exclusive avec lui. Je ne pourrais pas partager...
Quelle chance. Moi il est sur ma liste. J'ai dit il était parce que... Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était vendredi et Gutland était aussi en même temps que le film italien des frères Taviani. Et comme je les aime bien aussi, je suis partie voir. Ça s'appelle en anglais Rainbow, A Private Affair. C'était très intéressant, mais c'était pas aussi prenant que je le pensais. Alors ça m'a un peu déçue quand même, mais c'est un bon film. Il faut l'avouer. Moi, des films que j'aimerais recommander aussi, c'est le film marocain Radia, très très beau film justement sur la société marocaine en plein mouvement et sur la voix et la parole des, je veux dire, l'impact de la voix et de la parole. Donc c'est très très beau, c'est de Dayouche. J'aimerais recommander Les Gardiennes de Xavier Beauvois, très très beau film qui marque, enfin qui va vers le centenaire de la Première Guerre mondiale, 14-18. Je recommanderais également le film, alors là j'arrive pas à le dire, de Hazan Avicius, Le Redoutable, sur Godard. J'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. Parce que moi, je trouve que Godard s'est perdu à un moment donné et Le Redoutable capture un petit peu cette transition où on ne comprend plus rien de ce que fait Godard. Pardon aux gens qui aiment Godard, mais moi, je comprends plus ce qu'il fait. Moi, cet après-midi, je vais voir un film coréen, The Poet and the Boy. Je vais voir un film, je crois irakien, Wajib. Je vais voir un autre film qui s'appelle What Will People Say. Donc, je fais mon programme de jour en jour avec ce que j'entends, avec mes obligations aussi, disons savez que je prépare un festival pour octobre.
Oui, bien sûr. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière.
Ah, c'est gentil.
Et il faut vous aider parce qu'on sait toutes les difficultés que vous avez eues dans le passé. Oui. Alors, madame, monsieur, ne ratez pas. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site www.cinefranco.com pour avoir tous les renseignements. Alors, je vois qu'il y a des sirènes autour de vous. Il y a 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors, c'est un film qui touche le sida, les Français. Il y a aussi un autre film qu'un auditeur nous recommande, Hochelaga, Terre des âmes du Québécois, de François Girard. Oui, alors, malgré le moins de films ou de projections cette année, on sent qu'il y a quand même une bonne sélection pour les cinéphiles de la région ou du monde.
Absolument, absolument. Mais le titre, c'est l'ultime, l'ultime voyage cinématographique. C'est quelque chose d'unique. Mmh. Parce que non seulement, par exemple, hier, par hasard, ce monsieur s'est assis deux fois près de moi, mais par hasard, et il venait du Portugal, c'était un distributeur portugais. À une autre séance, j'étais à côté de distributeurs allemands. Encore une fois, je vais là-dessus pour prendre un café. J'avais un critique américain qui venait de la Floride, justement, et qui s'inquiétait beaucoup de ce qui se passait là-bas, parce qu'il m'avait dit, j'ai laissé ma voiture dans le garage, j'ai une maison. Enfin, vous voyez, c'est à la fois un voyage humain et un voyage artistique et cinématographique.
Merci infiniment, Marceline. Bon cinéma, bonne semaine. Bien merci. Le bonjour à toute la famille et à tous vos amis. Et grand merci de la part du public et des auditeurs de CUT-FM. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Le blog du Zouk, Yourzouk TV, présente la nouvelle compilation Zouk Session 2017. Les 40 meilleurs tubes Zouk du moment avec Marvin, Johan, Priscilla, Kim, Tony, Tyrek, Naël, Mani, Karine. Et toujours inclus en bonus, un mix exclusif de DJ Smile. Succession 2017. Disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Plus d'infos sur leblogduzouk.fr.
Bon, on s'est dit on va mourir parce que tout était à exploser, les toitures tenaient plus, les baies vitrées tenaient plus, il fallait les tenir. On part voir des amis, apparemment leur maison est détruite, on va voir s'ils ont besoin d'aide et tout ça. On n'est pas bien, on ne sait pas trop. D'abord on n'a pas d'eau, pas d'électricité, on est sous le choc. Aujourd'hui on se réveille en voyant vraiment l'île dans un état plus que catastrophique et on est très choqués. On a beaucoup pleuré hier parce que voilà, quand on a découvert, la tension, la pression qui a
voilà, madame, monsieur, un extrait d'un hommage, mais aussi réaction, appel de détresse de la part des victimes de l'ouragan Irma qui a frappé Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les autres îles des Antilles. Bon courage et merci d'être là. Popourri chaud, 30 ans déjà, avec
RFI, toute la diversité du monde.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, bringing you the sound of your city for 30 years.
Maxime Jacquelin.
Irma continue sa course folle dans les Caraïbes. Après avoir frappé Cuba avec des vents à plus de 250 km/h et des vagues de 7 mètres de haut, l'ouragan se dirige désormais vers l'archipel des Keys et la Floride, où il est attendu ce dimanche. Il oscille actuellement entre les catégories 3 et 5, la plus élevée sur l'échelle des cyclones tropicaux. Les autorités américaines ont appelé plus de 6 millions de personnes à évacuer les côtes. Les autres ont fait leur provision d'eau et de nourriture. Un nouveau bilan, forcément provisoire, fait état de 22 morts dans les Caraïbes après le passage d'Irma, 10 dans les Antilles françaises. L'autre ouragan, José, qui s'était renforcé en catégorie 4 ces dernières heures, est finalement passé plus au large de Saint-Martin que prévu, sans avoir fait de dégâts semblables à ceux causés par Irma. L'état d'alerte est maintenu dans la région, mais l'ouragan devrait perdre progressivement de la puissance pour se dissiper en milieu de semaine prochaine. Le troisième ouragan, Katia, a quant à lui été rétrogradé en tempête tropicale après avoir frappé la côte est du Mexique, faisant 2 morts. Les États-Unis demandent une nouvelle fois des sanctions sévères contre la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump s'est entretenu samedi avec le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président français Emmanuel Macron, qui évoque la nécessité d'une réaction unie et ferme face aux provocations. Le régime nord-coréen fêtait lui samedi l'anniversaire de sa fondation, l'occasion de confirmer son souhait de renforcer le potentiel nucléaire du pays, un nouveau pied de nez aux menaces de sanctions internationales. C'est la fin d'un siège qui aura duré près de 3 ans. Les milices arabo-kurdes des forces démocratiques syriennes ont repris samedi le contrôle de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor, un site stratégique dans la dernière province syrienne, toujours sous contrôle de l'organisation terroriste État islamique. En France, les salariés de la souterraine ne décolèrent pas malgré la validation de la reprise de leur entreprise GMS par le groupe GMD, c'était jeudi. 200 d'entre eux ont manifesté samedi devant la préfecture de la Creuse pour protester contre la suppression de 156 emplois sur 276 chez l'équipementier automobile. Politique en France avec le retour aux fondamentaux pour la rentrée du Front National. Marine Le Pen était ce samedi en Haute-Marne. Devant ses militants, elle a repris les thèmes traditionnels du parti, identité et sécurité. Un retour aux sources, même si le parti doit évoluer selon sa présidente. Le FN s'apprête en effet à effectuer une profonde réorganisation, avec notamment un changement de nom dès l'année prochaine. Un mot de football pour finir avec la Ligue 1. Caen confirme son bon début de saison avec sa victoire contre Dijon, 2-1. Amiens enchaîne de son côté un deuxième succès de rang à Strasbourg, victoire 1-0. Et le FC Nantes est également sur une bonne série. Les Canaries se sont imposés par la plus petite démarche face à Montpellier, 1-0.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Popourri Show, 30 ans déjà, avec
RFI, toute la diversité du monde.
Et oui, c'est la rentrée, madame, monsieur. J'espère que ça s'est bien passé. Merci à tous les professeurs, les étudiants, et merci à notre nouvelle étudiante, Jennifer Lee, bénévole, collaboratrice maintenant à l'émission, d'être là. Vous pouvez l'appeler, hein, 86-9-46-7000. Souhaitez la bienvenue à Jennifer. Elle est francophile, francophone, immigrante, canadienne, asiatique. En tout cas, pour nous, elle est francophone. Merci d'être là, et elle fait un effort, et elle parle très bien d'ailleurs. Elle est un peu timide, mais elle parle très bien le français. Allez, envoyez-nous un message sur Facebook ou encore 86-9-46-7000. The Word on the Street, le plus grand festival du livre et du magazine débarque à Toronto, madame, monsieur. Découvrez les meilleurs auteurs du Canada, et cela existe hein, depuis 1990, la nouvelle scène qui présente la littérature française de partout au Canada avec des discussions, des ateliers en présence d'auteurs mettant en vedette, entre autres cette année, Christine Brouillet, Stéphane Larue, Alex à Marguerite Andersen, qu'on connaît bien, et Monia Mazig, et bien d'autres. Vous pouvez aller sur le site, ça démarre le dimanche 24 septembre, de 11h à 18h, au Harbourfront Center. Et dans un instant, une autre rentrée très spéciale, très spéciale. Ces montages musicaux, j'adore. La rentrée automnale des éditions Prise de Parole. La maison est heureuse de présenter pour sa quatrième année, nous sommes 31e année, 4e année, 44e année, c'est quand même, ça fait des années, hein. Une moisson d'œuvres, d'essais, d'études qui saura vous faire, madame, monsieur, voyager dans les paysages littéraires et culturels de la Louisiane, de l'Acadie et de l'Ontario et bien d'autres encore. Dans un instant, nous allons réveiller notre invité Stéphane Cormier, qui est co-directeur général et directeur de la commercialisation aux éditions Prise de Parole. Toc, 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 toc. Bonjour Stéphane. Allô? Alors, je pense que... Stéphane, bonjour.
Allô?
Oui, oui, je vous entends très bien. Bonjour.
Bonjour Eric, comment allez-vous?
Ça va bien, je m'excuse beaucoup pour cet incident un peu technique, mais vous savez, nous sommes dans une émission un peu décalée aujourd'hui avec les événements dans les Antilles. On attend toujours des nouvelles de nos amis. Et bravo pour cette rentrée automnale qui nous offre des cadeaux, des surprises aussi. 44 ans déjà, bon anniversaire.
Ben merci, oui, la maison fondée en 1973, donc on approche de nos 45 ans et de nos 50 éventuellement.
Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette année?
Ben, on a une rentrée assez riche avec plusieurs essais et études, entre autres, quelques ouvrages de fiction, bien sûr, et la poésie, un genre sur lequel la prise de parole a été fondée. Mais j'attirais sur votre attention sur peut-être quelques ouvrages. Entre autres, vous avez mentionné d'entrée de jeu la Louisiane, un territoire où il y a des francophones, bien sûr. Et puis, suite à un voyage qu'on avait fait il y a 2 ans à Lafayette, on a découvert un livre en gestation qui était un livre sur lequel des gens travaillaient depuis des années, dont Jean-Barry Ancelet, qui est un titre formidable, qui recueille toutes sortes de documents audio, écrits sur le patrimoine francophone à Louisiane.
Vous savez, on sous-estime bien souvent la présence et l'intérêt des Américains au sujet de la francophonie. Je reviens de Californie, de San Diego plus précisément. J'ai été agréablement surpris d'entendre parler français. Il y a même une rue qui s'appelle Champs-Élysées. Il y a des restaurants, des bistrots français, québécois. J'ai trouvé ça formidable. Et on n'en parle pas assez qu'il y a un engouement dans certains milieux américains au sujet de la francophonie. Êtes-vous d'accord?
C'est possible. Anecdote personnelle, ma tante avait un salon de coiffure à New York, puis elle avait appelé ça Kim Lipin Hair Salon. La consonance française lui donnait un relief là, très, très, très glamour. Mais pour revenir au sud des États-Unis, à Lafayette, il y a effectivement plein de noms de rues qui rappellent l'héritage francophone, des noms de restaurants, etc., etc. Ils n'ont pas eu facile là-bas parce que le français a été interdit d'enseignement pendant plusieurs décennies.
En effet.
Mais quand même, on constate les traces, puis aujourd'hui, il y a un certain renouveau là, de la culture francophone, des poètes, des chansonniers qui sont assez actifs, dont Barry Jean Ancelet, qui a un personnage de scène qui est extraordinaire, mais qui s'appelle Jean Arsenault, un conteur fabuleux. Donc, avec une équipe de 4 personnes de la University of Louisiana at Lafayette Press, ils ont constitué une anthologie de la littérature louisianaise d'expression française depuis les tout débuts 1682. C'est un bouquin qui fait au-dessus de 500 pages. Et nous, on est embarqués dans le train prise de parole parce qu'ils cherchaient un co-éditeur, entre autres, pour diffuser au Canada. On a travaillé sur les textes aussi un peu avec eux, les textes de présentation. Donc, c'est une belle anthologie qui est organisée de façon chronologique et qui nous fait voyager à travers plusieurs centaines d'années de francophonie en Louisiane, que ce soit celle de la Nouvelle-Orléans dans les débuts, qui s'est déplacée plutôt vers le sud après la guerre de la Sécession pour souffrir vraiment là, pendant les années d'interdiction d'enseignement jusqu'à la Renaissance, la deuxième partie du 20e siècle.
Mmh. Vous savez, un jour, il faudrait faire un débat, une émission spéciale sur les défis qui existe encore. Malheureusement, on célèbre cette année 40e anniversaire de la loi 101 au Québec. Et dans ces endroits comme la Louisiane, je ne sais pas si on pourrait fouiller, aller voir les défenseurs de la langue française, de la littérature française, de la francophonie dans ces endroits. Quelles étaient leurs armes si là, on parle encore français dans certains milieux, dans ces endroits-là?
Ben, je ne suis pas un spécialiste, là, bien entendu, de la francophonie de la Louisiane, mais bon, c'est sûr qu'elle a survécu dans des milieux populaires, reculés, dans les bayous. Le français s'est passé de génération en génération en se transformant, parce qu'il y a une créolisation du français, bien sûr.
Voilà.
On ne parlait pas le même français à Lafayette qu'on parlait à la Nouvelle-Orléans non plus, donc... Mais il y a des associations aujourd'hui qui s'occupent de défendre les intérêts du français.
Mm-hmm.
Travaillent avec peu de moyens, mais enfin, elles font un bon boulot. C'est d'ailleurs une de ces associations-là qui nous avait accueillis à Lafayette pour structurer notre tournée dans les écoles, les bibliothèques, nous faire rencontrer tout ce qui comptait là, dans le domaine de l'éducation en français.
Mm-hmm. Anthologie de la littérature louisianaise d'expression française de 1682 à nos jours, sous la direction de Mathé Alain. Alors, c'est à... Moi, j'ai hâte d'avoir une copie. Ça m'intéresse.
On va vous en envoyer une.
Oui, oui. Et quels sont les autres?
En Acadie, on a aussi un bouquin de David Lonergan qui est « Regard sur la littérature acadienne », parce que, bon, plus de paroles qui disent aussi des auteurs acadiens et s'intéressent à l'Acadie depuis une quinzaine d'années au moins. Donc, David... va couvrir 40 ans de littérature acadienne, c'est-à-dire depuis la fondation des éditions de l'Acadie en 1972. Donc, il n'y a pas énormément de bouquins publiés sur le sujet. Ça aussi, ça va être un livre là, qui est un peu une première. David Lonergan, qui a été chroniqueur culturel à l'Acadie Nouvelle pendant au-dessus de 20 ans, qui avait publié un livre sur le théâtre Escaouette, qui a publié déjà des anthologies de la littérature, mais là, il arrive avec un 40 ans, un regard un peu personnel, mais aussi érudit parce que il a fait sa scolarité de doctorat sur ce sujet-là.
Oui.
Donc, on est dans le ton de la confidence, le ton de l'intérieur, de quelqu'un qui a vécu la littérature acadienne pendant toutes les années où il était établi au Nouveau-Brunswick. Donc voilà, on a plusieurs essais aussi des études sur Sudbury, dont une histoire sociale du Grand Sudbury de Donald Denis, qui est un historien, un ancien syndicaliste, un gars de gauche un peu, qui a fait une histoire sociale qui couvre 100 ans à partir du moment où le rail arrive à Sudbury. Et là, commence l'aventure du développement du Nord avec, dans ce qu'on appelait à l'époque le bassin de Sudbury, la forêt, les mines. Mais vu à travers une perspective de lutte, toujours entre les grands propriétaires capitalistes puis les travailleurs.
Mais pour les nouveaux arrivants, les gens qui nous écoutent pour la première fois, qui ne connaissent pas très très bien l'Ontario, où se situe Sudbury, c'est dans le nord de la province de l'Ontario. Et là, je dirais, c'était un peu le poumon pendant un bon bout de temps de la francophonie même de l'Ontario. Hein?
Mais ce qu'on a baptisé le Nouvel Ontario, oui. Effectivement, prise de parole d'une maison d'édition qui est issu d'un mouvement là, d'affirmation identitaire dans les années 70, hein, coup sur coup, il y a eu un festival qui a été fondé, une maison d'édition, le théâtre était bouillonnant, la poésie, tout ça un peu a émergé de l'université Laurentienne aussi en même temps.
Des festivals de musique franco-ontarienne, on a eu des festivals franco-ontariennes pendant un bon bout de temps, la nuit sur les temps, je pense.
La nuit sur les temps, exactement, ouais, vous avez tout à fait raison. Ouais. Donc, oui, prise de parole qui a été un foyer francophone.
Il y a même un mini-festival de films francophones à un moment donné. Je ne sais pas si ça dure encore, mais je sais pendant des années, il y avait un festival de films.
Il y a un très gros festival de films qui revient à chaque année en septembre à Sudbury. Uh-huh. C'est un festival, principalement anglophone, mais auquel il y a une composante francophone quand même assez intéressante. Mm-hmm. C'est un très, très gros festival qui dure 2 semaines. Il y a des gens qui prennent des vacances pour voir le maximum de films possibles.
C'est très, très beau. Ouais, j'ai travaillé là dans le passé et j'ai des amis là. Une histoire sociale du Grand Sudbury de Donald Denny.
Exactement, oui, c'est ça.
Et quoi d'autre?
Mais sinon, en parlant de la Fondation des éditions Prise de parole et puis les grandes années 70-80, on publie poésie complète de quelqu'un qui est un acteur extrêmement important sur le plan de la culture et de la littérature, non seulement à Sudbury, mais aussi dans le Canada français, c'est Robert Dixon, quelqu'un qui a été directeur littéraire des éditions Prise de parole. Un poète primé, prix du gouverneur général, pour Humain paysage en temps de paix relative. Donc, il a publié 6 livres de son vivant, et puis on les collige dans un recueil de la BCF. La BCF, c'est la collection Bibliothèque canadienne française, dans laquelle on publie des classiques sous une forme accessible, à petit prix, dans un format semi-poche, avec une introduction, avec des balises bibliographiques, biographiques. Donc, pour célébrer un peu les 10 ans de son décès, parce qu'il est décédé en 2007, Robert Dixon, une personne que moi, j'ai pas connue parce que je suis arrivé à Sudbury après, mais dont tout le monde me parle avec beaucoup d'éloquence. La moitié des poètes de l'Ontario, à quelque part, ont croisé Robert Dixon dans leur parcours. C'est quelqu'un qui prodiguait des conseils, faisait de l'accompagnement. C'est une grande figure là, du monde littéraire. Donc, sous le titre « Aux 4 vents de l'avenir possible », qui est un extrait, qui est un vers d'un recueil publié, un recueil de jeunesse publié par Robert Dixon, on publie son intégrale.
Parfait.
Donc, ça va être un temps fort. On revient avec un nouveau recueil de Patrice Desbiens, qui est un poète qui a publié au-dessus de 30 livres dans une carrière de réputation nationale ou internationale.
Exactement.
Patrice Desbiens, le poète du quotidien, le poète des petites choses, des grands moments, des petits moments, mais toujours raconté avec un sens de la formule incroyable, une concision, une lucidité, une tristesse. Le poète aussi du français malmené, parce que étant francophone, Dave Atemins à Sudbury, ça l'a laissé des marques dans sa poésie. Donc, on sort pour une deuxième année presque consécutive un recueil de Patrice Desbiens. En 2015, on avait sorti Le quotidien du poète. Là, il revient avec Sous un ciel couleur cayenne. Un petit recueil qui se lit assez rapidement, mais qui est très, très bien écrit, très, très concis. Puis on referme le bouquin, puis après ça, on a l'impression de dériver un peu dans l'univers de Patrice Desbiens là, pour les heures qui s'en suivent.
Mm-hmm. Et d'autres?
On continue. On va continuer, bien sûr. On va revenir du côté des essais avec Aurélie Lacassagne. Puis tantôt, je parlais de créolisation pour le français de la Louisiane. Mm-hmm. Elle publie un essai « Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne ». Donc, Aurélie Lacassagne est française d'origine. Elle enseigne à l'Université Laurentienne. Puis c'est quelqu'un qui croit beaucoup dans le potentiel créateur et fécond du français franco-ontarien. Donc, pour elle, ce français-là est un français créolisé, qui définit l'identité, surtout l'identité du Nouvel Ontario, mais par extension, celui des francophones de l'Ontario.
Ouais.
Et pour elle, c'est un français qui est en constant renouvellement, qui a une portée politique aussi. Elle est politologue, puisqu'elle enseigne à l'université. Donc, elle nous offre un essai engagé de type un peu intellectuel dans la cité. Là. C'est oui. pas la professeure qui professe du haut de sa chaire, c'est quelqu'un qui est impliqué. Bon, Aurélie Lacassagne a participé longtemps à un blog qui s'appelait Ta gueule,
ah, oui.
qui est un blog qui aimait un peu brasser la cage sur toutes sortes de sujets.
Mais vous savez,
elle fait des interventions à la radio, donc c'est quelqu'un qui a vraiment les deux pieds dans la cité, puis qui essaie de faire bouger des dossiers.
Mais vous avez, Stéphane, justement aujourd'hui, je parlais de cette déclaration un peu historique hein, de la part de la Fédération des Acadiens et francophones du Canada ainsi que de l'Assemblée de francophones de l'Ontario qui ont émis une annonce un peu choc pour beaucoup de gens. Ils demandent au gouvernement du Canada d'ouvrir les portes à des demandeurs d'asile francophones afin qu'ils viennent au Canada et surtout en Ontario. Et ça va avoir une répercussion à la longue sur l'identité même de cette francophonie, sur la langue, la culture, le niveau socio-économique, accès aux services. Il faudra composer avec une différente facette de la francophonie d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'est-ce pas?
Ben, je pense que vous êtes, étant à Toronto, vous êtes bien placé pour voir une francophonie qui est issue beaucoup de l'immigration. Donc, on sait à peu près tous que c'est par l'immigration que la francophonie va se développer dans les prochaines décennies.
Voilà.
Vous avez tout à fait raison. Et puis, ben, nous, comme maison d'édition, ce sont des enjeux avec lesquels on compose, on garde un œil ouvert à tout ce qui est différent de la francophonie, on pourrait dire le de souche là, du nord de l'Ontario. À Sudbury, on a une immigration francophone quand même assez importante. La ville, à travers, par exemple, le centre de santé communautaire, essaie de mettre des mécanismes d'intégration. Et puis, ça fonctionne relativement bien, mais c'est sûr que oui, effectivement, la dimension de l'immigration pour renouveler le français en Ontario va être quelque chose qu'il va falloir suivre là, dans les prochaines années.
Mon producteur me dit que j'ai 2 secondes. J'étais pour vous dire une seule question, oui ou pas. Répondez par un oui ou un non. Êtes-vous d'accord avec la nouvelle université franco-ontarienne? Parce que ça fait débat ici.
Une question à laquelle je ne peux pas répondre par un oui ou par un non. Je suis désolé, mon cher Éric.
Il faudra faire une émission. Il faudra vous inviter pour une émission spéciale. Vous êtes un agent avant-gardiste. Depuis qu'on se connaît, j'aime beaucoup les approches. Vous essayez toujours de trouver toutes sortes de façons pour nous faire découvrir la richesse, la vitalité de la littérature franco-ontarienne. Un grand merci et pour votre travail. Stéphane Cormier, co-directeur général et directeur de la commercialisation, édition prise de parole. Un grand merci et je vous souhaite une bonne rentrée. Nous célébrons notre 31e édition et
ben
j'espère,
oui,
j'espère que nous serons avec vous pour célébrer votre 45e anniversaire.
Ben moi aussi, merci beaucoup de l'invitation.
Et merci pour les cadeaux que vous offrez à tous nos auditeurs. Ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir.
Oui, ben vous avez qu'à demander pour vous envoyer.
Édition prise de parole, allez sur le site www.prisedeparole.ca. Voilà. Au revoir.
Au revoir, merci Eric.
J'ai la tête pleine de projets, mais les poches pleines de garnottes. J'ai l'esprit sur une autre planète, mais les deux pieds coulés dans roche. Mon portefeuille est tellement léger que mon cœur a de quoi l'envier. Mais j'suis pas stressée, non j'suis pas stressée. J'voulais
le ressenti. Je me rappelle du temps où j'étais petit cul. Je mettais mon caisse sur le coin de la rue. J'avais des rêves à perdre de vue. Pour y goûter, je me suis battue. J'avais rien devant et rien derrière. De sac à vidange, j'ai de la misère. Une belle gueule étrange m'envoyait en l'air. Et un cœur étanche pour survivre en mer. Mettez-vous en ligne et faites copier-coller. J'ai levé mon doigt dans les airs et j'ai défoncé toutes les barrières. Regarde tout ce que j'ai d'accompli. J'suis parti de rien, maintenant j'suis ici. J'ai pas de remords, j'ai pas de regrets. J'peinture ma vie puis j'aime le portrait. J'l'ai déjà dit, j'vais le répéter. Non, j'suis pas stressé.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Le Luxembourg est une démocratie représentative et une monarchie constitutionnelle avec un grand-duc pour chef d'État, faisant du pays le seul grand-duché encore existant. Son économie extrêmement dynamique en fait un des pays les plus riches et les plus prospères du monde, avec le PIB par habitant le plus élevé du monde selon le FMI en 2014. L'économie est principalement centrée sur les activités financières, environ la moitié du produit intérieur brut, favorisée par une fiscalité attractive, voire dérisoire dans certains domaines, quasi exonération d'impôts pour les bénéfices issus de l'exploitation de brevets ou de logiciels. La localisation centrale du territoire luxembourgeois en Europe a historiquement fait de lui un lieu d'une grande importance stratégique pour de nombreuses puissances. Depuis sa fondation en tant que forteresse romaine, son accueil d'un château franc durant le Haut Moyen Âge et son rôle de bastion pour le chemin des Espagnols entre le XVIe siècle et le XVIIe siècle. Oui, c'est un pays qu'on connaît moins ou pas du tout, ici, au Canada. En première mondiale,
Long métrage Gutlen de Govinda Van Mel, coproduction Les Films Fauves. C'est l'histoire de. Ah ben, on verra. Et pour la première fois, nous allons accueillir le réalisateur qui est ici à Toronto dans le cadre du Festival international de films TIFF 2017. Et oui, nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur Van Mel. Ça va?
Oui, très bien, merci.
Alors, c'est votre première visite à Toronto?
La toute première fois au Canada, en fait, ouais.
Oui. Alors, ce film, je ne sais pas si on a déjà projeté des films de Luxembourg auparavant, parce que je suis le festival depuis quelques années, mais c'est un film assez particulier, je dois l'admettre. Je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai visionné à plusieurs fois pour la préparation de cette émission. C'est le rythme, je dirais, est complètement différent des autres films qu'on peut s'attendre de Hollywood, par exemple. Alors, parlez-nous un petit peu, justement, l'histoire, sans tout dévoiler, mais un peu l'itinéraire de ces acteurs, de vos comédiens, et aussi le fil de l'histoire.
Ouais, je vais essayer sans trop dévoiler, parce que c'est, en fait, c'est une histoire de transformation. Mais si je parle trop de cette transformation, ça va être très difficile d'être surpris par le film, mais c'est une transformation de personnage, c'est une transformation de style aussi dans le film. Et en narration, ça parle en fait d'un gangster, un voleur en cavale en fait, qui essaie de se cacher dans un village luxembourgeois. Il vient d'Allemagne et il trouve accueil dans son village, dans ce village-là, et ils sont très très gentils avec lui. Et à un certain moment, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda derrière? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose dans la tête? Il n'est pas sûr si c'est un malentendu culturel ou si c'est vraiment quelque chose qui se passe là-bas.
Et ça peut arriver, hein, parce que nous sommes une terre d'accueil d'immigrants. Il peut se passer beaucoup de choses dans la traduction ou dans la culture même, n'est-ce pas?
Ben oui. Moi, je sens un peu la même chose chaque fois que je sors du pays, en fait. Et là, en Canada, je sens aussi ce truc-là où je ne suis pas sûr des codes et tout ça. Comment les gens, ils parlent dans les rues et tout ça. Ils sont super sympas, par exemple, ici. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, c'est pas que ça m'a mal à l'aise, mais ça me met plus, comment ça s'appelle, suspicious, quoi.
Oui. Alors, ne vous en faites pas ici. Vous pouvez nous faire confiance. Alors, justement, on lui offre même, à un moment donné, une trompette, je pense.
Ouais.
Et il ne comprenait pas, là, pourquoi on lui offre... parce qu'il travaillait sur une ferme. L'histoire se passe sur une ferme, n'est-ce pas?
Ouais.
Et je n'ai pas compris le cadeau qu'on vient lui offrir comme une trompette. Pourquoi?
Bah c'est dans tous les villages luxembourgeois, il y a des fanfares.
Oui.
Je sais pas comment c'est ici en Canada, mais c'est très normal au Luxembourg. Si on habite dans un village, on fait partie de la communauté et on fait partie de la fanfare. Donc, si vraiment on veut s'intégrer, il faut mieux en fait jouer un instrument dans cette fanfare-là. Et comme lui, le personnage, il essaie de se cacher, il accepte tout de suite et il commence à apprendre la trompette.
Et justement, parce qu'à la fin, c'est là qu'on fait le lien. À la fin du film, c'est là qu'on fait le lien avec la trompette.
Ouais.
Alors, comment avez-vous fait pour justement écrire cette histoire? Qu'est-ce qui vous inspirait?
Bon, comment j'ai écrit, je me laisse inspirer par plein de choses. En fait, je me laisse assez ouvert. Donc, il y a des inspirations de ma propre vie. Moi, je viens d'un village au Luxembourg. Il y a des inspirations, des trucs que j'ai vécu en dehors du Luxembourg. Il y a des influences d'autres films. Et il y a beaucoup d'influences aussi sous-conscient que j'aime laisser entrer dans le récit.
Oui. Et comment les jeunes ou la population de votre pays ont accueilli ce film?
Ils n'ont pas encore vu, en fait. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'il est montré au public.
Ah oui. À travers le monde ou bien uniquement ici à Toronto?
C'est la première mondiale, quoi.
Ah oui, c'est ça. Alors, nous sommes vraiment chanceux, hein?
Oui.
Oui. Est-ce que vous avez eu des... Est-ce que le film a été déjà projeté? Ou parce que moi, je n'ai pas l'horaire, je viens d'entrer hier soir. Est-ce que le film... Quel est l'itinéraire ou le calendrier des projections de votre film ici à Toronto?
Bah, y a la projection ce soir à 6h45. Et puis, il y a encore plusieurs projections les prochains jours, mais il faut que j'avoue, j'ai pas les horaires en tête là maintenant, mais on les trouve sur les sites du TIFF.
Oui. Alors, beaucoup de gens, quand ils ont vu votre nom et cette histoire, ils m'ont dit, c'est bien de parler un pays comme le Luxembourg. Parlez-nous un petit peu, décrivez-nous à votre façon, avec, dans vos propres mots, votre pays qu'on connaît mal ici au Canada.
Oui, bon, le Luxembourg, c'est... l'image qu'on a du Luxembourg, si on a une image du tout du Luxembourg, c'est que c'est un pays de finances, donc il y a beaucoup de banques, on s'imagine que c'est surtout une ville. C'est déjà confusant parce qu'il y a notre capitale s'appelle Luxembourg, comme le pays. Donc beaucoup de gens, ils ont cette idée que c'est juste une ville, quoi. Mais en fait, pour moi, de mon point de vue, étant grandi au Luxembourg, pour moi, c'est un pays de villageois, quoi. C'est beaucoup de villages. Moi, je suis grandi dans un village et il y a juste une petite ville au centre du pays. Et le reste, c'est des villages. Et puis, c'est un pays aussi très... il y a un GDP, ça s'appelle comme ça en français, un GDP très élevé. Mm-hmm. Donc, le standard de vie, et c'est assez confortable, quoi. Il y a un bon système social et tout ça. Mm-hmm. Et ça, pour des étrangers, c'est souvent assez surprenant. Oui.
Ouais. Et est-ce que il y a beaucoup de touristes qui passent vous voir? Oui.
Il y a beaucoup de touristes qui passent en fait le pays parce qu'il y a l'autoroute qui passe. Si on veut aller d'Allemagne à Paris, par exemple, il faut passer par Luxembourg. Donc, si les gens ils me disent qu'ils étaient déjà au Luxembourg, c'était surtout pour prendre du gaz à la station d'essence. En route à Paris. Donc il y a beaucoup de gens qui passent, mais il n'y a pas tellement de gens qui restent plus que quelques jours. Donc, mais il y a un tourisme, bien sûr.
Mmh. Parlez-nous des acteurs et des actrices qui jouent leur rôle superbement bien, j'ai trouvé.
Ah oui, merci. Bon, c'est un mélange d'acteurs non professionnels et des professionnels.
Uh-huh. Et je trouve ils sont vraiment formidables. Et puis, vous savez, vous avez une attachée de presse exceptionnelle, hein, Annalise Combs, ouais. À Paris. Moi, j'étais aux États-Unis et elle a fait tous les arrangements, les coordinations. Elle fait vraiment un travail de promotion extraordinaire. Vous lui direz bien le bonjour de notre part parce qu'elle est de Ciné Sud Promotion, hein, à Paris. Comme attaché de presse, et j'espère que ce film, qui est en première mondiale, Madame, Monsieur, long métrage de Gutland, de réalisateur Govinda Van Mel, avec qui nous avons l'honneur et le bonheur de parler, est en première mondiale à Toronto dans le cadre du Festival international de films à Toronto. Je souhaite longue vie pour votre film. Est-ce que vous avez d'autres scoops peut-être à nous lancer? Est-ce que vous avez d'autres projections, des projets à l'avenir?
J'ai d'autres projets où je suis en train d'écrire, mais c'est encore trop tôt, je crois, pour faire un pitch.
Ouais. On va attendre. On garde le contact, hein, et puis bienvenue chez nous. Toronto est une belle ville. Revenez nous voir. Je dirais à ce temps-ci ou au mois de juin, juillet, août, c'est les meilleurs moments parce qu'au mois de novembre jusqu'au mois de mars, c'est un peu plus frisqué.
Ok.
Allez, bonne chance et à bientôt. Hein.
Oui.
Au revoir.
Pot-pourri chaud, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Eh oui, c'est formidable, hein, Jennifer Lee. Vous avez aimé ce réalisateur qui fait... vous n'avez pas vu son film, hein? C'est à voir absolument. Je remercie beaucoup José Duranlo de Duranlo Communications qui nous a envoyé un CD en dernière minute, un Madre Amiga Hermana, sublime, nouvel album de musique trilingue, incomparable, Patricia Cano, qu'on jouera la semaine prochaine. Merci beaucoup José Duranlo. Vous pouvez imiter José en nous envoyant vos activités ou encore activités communautaires. Si vous voulez faire partie de notre équipe, un message à potpourri@cut.fm. Et je vous donne quelques rendez-vous de nos partenaires, nos coups de cœur, 150 ans de revendication de bilinguisme judiciaire de Louis Riel à Michel Bastarache sous forme de lecture collective suivie d'une période de questions. Nul autre que Maître Gérard Lévesque comme personne ressource. Merci beaucoup, Maître Gérard Lévesque. Et c'est prévu pour le mercredi 13 septembre à 19h à l'Alliance française de Toronto, 24 chemin Spadina, c'est le métro Spadina. Si vous souhaitez lire une citation, faire de la politique, être animateur de radio, voilà le temps, ou être admis au barreau du Canada ou nommé à la magistrature, et vous envoyez un message à l'évêque.gérard, il n'y a pas de S dans l'évêque à la fin, hein. gérard@sympatico.ca. Alors, et puis conseil gratuit à la distillerie District les 23 et 24 septembre à ne pas rater. Plusieurs artistes francophones du Québec, de l'Ontario seront là. C'est gratuit. 23 et 24 septembre à la distillerie, plus de 16 musiciens talentueux seront sur scène. Et tout ça pour des spectacles gratuits. Allez sur le site www.thedistilledistrict.com/events. Vous allez tout savoir. The World on the Street, le plus grand festival de livres et du magazine, débarque à Toronto. Et là, vous allez découvrir beaucoup d'auteurs et d'artistes anglophones, mais aussi francophones. C'est le 24 septembre à 11h, de 11h à 18h, au Harbourfront Center. Et je vous rappelle que dans le cadre de la série Les artistes franco-ontariens, pour célébrer le 150e anniversaire du Canada à la bibliothèque de référence de Toronto, il y aura deux événements qui promettent de belles soirées francophones. Premier événement avec l'écrivain Didier Leclerc, le lundi 18 septembre, c'est à 18h. Et tout ça se passe bien sûr à la bibliothèque de référence de Toronto, dans le coin de Bloor et Yonge. C'est le métro Yonge. Place au cinéma, demain tout commence, c'est le titre d'un film animé par et présenté par Marcel Lynn, notre fondatrice de Ciné Franco. Et c'est prévu pour le lundi 2 octobre à 18h. Et aussi, je vous rappelle que Ciné Franco vous donne rendez-vous avec la comédie L'Humour du 6 au 12 octobre prochain au cinéma Carlton. C'est le métro Collège. Si vous voulez gagner des billets, écoutez notre émission, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm ou encore info@cinefranco.com et participez à nos émissions. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Ciné Franco pour tout savoir. Et très bientôt à l'émission, professeur Alexis Chuap, nouveau directeur du département de français, Campus Saint-Georges, l'Université de Toronto sera des nôtres. Et il est spécialiste des littératures et des cinémas africains et antillais. Le club RFI présente une nouvelle émission par Eric Amien et réalisée par Mathias Golshani. Ils seront aussi chez nous. Terre d'Alliance, une émission sur les alliances françaises dans le monde. C'est en collaboration avec Radio France en France. Et Tour de Babel, Toronto, la Babel pluriethnique. Il y aura plusieurs invités, entre autres Jean-Gilles Pelletier, François Bergeron, rédacteur en chef de l'hebdomadaire L'Express de Toronto, directeur artistique du Canadian Stage, Monsieur Matthew Jocelyn, et tant d'autres encore. À ne pas rater, ce sera une émission d'une heure. Francophonie, des militants demandent une loi 101 revigorée à l'aube de son 40e anniversaire. Qui est québécois? Selon un sondage TVA et la firme Léger, presque un Québécois sur cinq avoue qu'il est un raciste. À vous la parole, Université franco-ontarienne, faites-moi pleurer. Bientôt à l'émission, professeur François Charbonneau des écoles Hautes études politiques, Université d'Ottawa sera des nôtres, et enfin une émission sur le racisme, la discrimination avec le débat et les consultations qui démarrent très prochainement au Québec. On fera le lien parallèle avec les francophones ou les minorités raciales de la province de l'Ontario. Et si cela vous intéresse à participer, vous nous envoyez un message. Dans un instant, je vous reviens avec le mot de la fin.
Tout de suite en direct de Saint-Martin, Xavier Yvon, il est correspondant à Europe 1 aux États-Unis. Bonsoir Xavier. Alors vous avez vécu l'ouragan hier à Saint-Martin. Qu'avez-vous vu? Où étiez-vous? J'imagine que c'était une nuit d'horreur.
Ah oui, c'est une nuit comme je pense qu'une seule fois dans une vie. C'est une nuit où vous avez l'impression que le pire monstre de vos cauchemars essaye de rentrer de force dans la pièce où vous êtes enfermé. Le vent en fait faisait mais trembler comme des feuilles, des rideaux métalliques extrêmement solides, la porte qui vibre, et puis le bruit, c'est des hurlements de vent, c'est comme s'il y avait des bêtes dehors qui essaient de rentrer pour vous attraper, et c'est extrêmement terrorisant. En plus, ça dure des heures, il y a un moment où ça se calme, c'est l'œil du cyclone, on peut sortir un tout petit peu, c'est un moment un peu surréaliste, il y a une lumière d'apocalypse, on a l'impression qu'on est à la fin du monde, on constate les premiers dégâts, et puis d'un seul coup, les vents reprennent, alors il faut à nouveau se calfeutrer, se cacher. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans une pièce plutôt bien isolée, plutôt bien fermée, mais là, depuis que je suis sorti et que je rencontre des habitants de Saint-Martin, je vois des gens qui ont passé la nuit enfermés dans des salles de bain, dans les toilettes, dans des armoires, qui parfois, pendant l'œil du cyclone, ont dû partir de leur maison où il y avait 1,20 m d'eau, où ils étaient en train de nager. Ils ont dû aller se réfugier chez les voisins au-dessus. Tout le monde raconte une nuit qui était une nuit d'enfer.
Vous avez eu peur à un moment donné?
Allô, je n'entends
plus rien. Est-ce que vous avez eu peur? Comment est-ce que vous êtes protégé en fait?
Je me suis protégé en étant dans une pièce d'une maison très solide, une maison anticyclonique, comme on les appelle ici, qui sont prévues pour ça. C'était une pièce en sous-sol avec des murs en béton très épais, avec des rideaux métalliques prévus pour ça, qui ont des joints spéciaux. Donc j'ai eu beaucoup de chance, moi, d'être dans une maison plutôt bien protégé.
Et quelle atmosphère sur place maintenant? Vous avez dit que vous êtes sorti, vous avez vu d'autres des habitants sur l'île. Avez-vous vu des secours arriver sur place?
Alors non, on voit passer des avions, des hélicoptères dans le ciel. J'ai vu passer une voiture avec quelques gendarmes dessus, en armes d'ailleurs, mais pas de secours encore. Les habitants ici demandent hein, évidemment que l'aide arrive. Ils demandent de l'aide.
Et oui, madame, monsieur, voilà, la communication malheureusement est un peu difficile, mais je vous rappelle que c'était des témoignages justement pris sur le vif grâce à nos radios partenaires qu'on remercie infiniment. C'est bien sûr les victimes de l'ouragan qui a frappé les Antilles, particulièrement l'île de Saint-Barthélemy et l'île de Saint-Martin. Bon courage et dans un instant, je vous reviens avec les messages et les appels aux dons et les coordonnées.
Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux.
Eh oui, les dons sont indispensables. C'est le Secours populaire français qui appelle à la solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu suite au passage des ouragans dans les Antilles. Voilà, vous allez sur le site www.secourspopulaire.fr. Vous pouvez aussi envoyer des dons par SMS, Secours Populaire, appel au don pour aider les victimes de l'ouragan Irma. Je remercie beaucoup, beaucoup Feyza Abdelawi, présidente du mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF. Allez sur leur site www.mofif.ca. Le réalisateur Govinda Van Mal et Anne-Lise Kons, attaché de presse Ciné-Sud Promotion Paris. Merci Stéphane Cormier, co-directeur général et directeur de la commercialisation, édition Prise de Parole. Un grand merci. www.prisedeparole.ca, le journal Express de Toronto. DJ Devera, notre nouvelle bénévole Jennifer Lee, merci, merci, merci beaucoup d'avoir coordonné tout ça. Et Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Ainsi, un grand merci à Sophie, Valériane, Xavier, Yvon, les correspondants d'Europe 1, RFI, Guadeloupe Première. Ici Ricardère, on vous aime. Soyez prudents. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain.
Tout peut arriver chez Coé. La preuve.
Le public, faites du bruit. C'est la première fois. Voici les sans recoucher.
Je connais ton histoire, mais j'ai jamais, jamais, jamais marché sur ta plage. J'ai grandi sous le soleil de Zambouja et du midi. J'avais les yeux vers un autre pays, petit pays et d'autres paysages. Je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. Je te ferai danser. Je te ferai danser. Je te ferai danser. La kizomba, la colatera. Je t'imagine. Dans ma tête, il y a tes couleurs qui se dessinent. Quand je pense à toi, j'ai des ailes et tes racines s'éclinent. Je signe, je serai bientôt là. Oh, je te promets que je viendrai te rencontrer. Mon île adorée, je sais déjà qu'on va s'aimer. C'est sûr que je te quitterai, mais c'est juré, je t'assure que toi et moi c'est gravé, et c'est sûr que je reviendrai. Je te ferai danser.
À partir de maintenant, tu peux t'abonner. Oui, viens, abonne-toi. Hey, abonne-toi. Hey, abonne-toi. Bon, t'as compris. Et en plus, tu peux même revoir plein.
Solo est un V.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Otra botella, mira.
considering going abroad to study, work, intern, or volunteer? Mark Sunday, October 1st on your calendar and get down to the Metro Toronto Convention Center to find out more. All the experts under one roof, top universities, gap year specialists, and student travel organizations. Feature seminar on scholarships starts at noon and expo opens at 1 p.m. Admission is free. Check online at www.studyandgoabroad.com for more info.
CIUT 89.5